Voilà, en ce dimanche, le troisième de carême, deux textes ressourçants pour nous, le décalogue d'une part, et puis le sens de l'adoration d'autre part. C'est le décalogue, c'est vraiment le programme que nous avons tous en commun pour ce carême. C'est la lumière pour faire un examen de conscience et pour tenter de redresser une vie morale qui peut être un peu affaiblie. Et c'est une nécessité. Et c'est le don du désert, ça. Ça a été donné au Sinaï, en plein désert, en pleine pérégrination, en direction de la terre promise, avec derrière soi l'Égypte spirituelle, ce monde qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît que les convoitises pour un ersatz de vie, hein. C'est entre les deux. C'est la marche du chrétien, c'est notre marche aussi, pas simplement en carême, mais dans notre existence en général. Il y a Jésus, voyez, n'a gardé de la loi de l'Ancien Testament, dont il était l'héritier. Il reprend l'ancienne alliance, il part d'elle pour aller plus loin. Eh bien, il n'a gardé de toutes les lois, et elles sont nombreuses, hein, relisez le texte de l'Exode par exemple, eh bien, que ce décalogue que nous venons de lire. Quasiment rien. Il a tout jeté. Non pas jeté comme quelque chose d'impur, mais comme quelque chose de dépassé. Lui, il dépasse tout. Quand il parle du sanctuaire véritable, eh bien, il parle tout bonnement de son corps, tranquillement. Et évidemment, les Juifs sont incapables de comprendre que Jésus parle de cela. Comment est-ce que quelqu'un pourrait se substituer au temple de Pierre qui était à Jérusalem? Jésus dit que l'adoration, si elle n'est plus véritable, eh bien, détruit le temple lui-même. La fausse adoration, c'est le premier commandement, un seul Dieu tu adoreras. Eh bien, si on sort de cette perspective-là, eh bien, on tombe dans l'idolâtrie et le temple lui-même s'écroule. La religion s'écroule. Jésus n'a gardé que le décalogue, nous disant que tout dans la loi, eh bien, n'est pas caduque. La loi était réellement porteuse d'une vérité profonde. C'est le décalogue qui l'exprime. Tout le reste, ça concerne le temple, ça concerne les fêtes religieuses, ça concerne les rites en général de l'Ancien Testament. Ben, tout ça, c'est caduque. C'est ce que Jésus dit à ses contemporains. On comprend eh bien, qu'il les fait mourir sur une croix. Le noyau de la loi, lui, demeure vrai. C'est pourquoi la loi était réelle et que l'alliance, l'ancienne alliance, n'était pas un leurre. C'était une vérité sur laquelle les hommes pouvaient s'appuyer. Mais comme les contemporains s'appuyèrent sur le témoignage de Jean le Baptiste. « Un instant, dit Jésus, vous êtes éclairés à sa lumière. Mais maintenant, il y a plus grand que Jean le Baptiste. Et c'est lui, notre Dieu, venu en ce monde, qui est la vraie lumière. » Donc toutes les lois sur le temple, Jésus ne les retient pas. Pas étonnant qu'il ne fasse pas grand-chose pour préserver le temple de Pierre de Jérusalem. Ça n'intéresse pas ce temple-là, le lieu matériel. Tandis que les Juifs étaient complètement structurés autour de ce lieu, qui était le dernier haut lieu qu'ils avaient. Et réellement, toute leur religion et même leur vie civique, eh bien, était tournée autour de ce temple. Jésus, lui, généralise, c'est là la différence, il généralise l'application donc, des lois morales du décalogue. Chez les Juifs, le décalogue s'était réservé, eh bien, aux Juifs. On avait ce commandement de s'entraider, mais entre membres d'une même religion. Les musulmans aujourd'hui ont hérité la même logique. C'est uniquement à l'intérieur, envers les autres croyants, eh bien, qu'on respecte le décalogue. Oui, on ne va pas convoiter les biens du prochain s'il est juif, s'il est musulman, mais s'il est d'une autre religion, on peut le voler comme on veut. Dieu ne nous accusera pas, disent-ils, au dernier jour. Jésus dit tout le contraire. Il a généralisé, parce que l'amour ne peut pas être morcelé. Or, notre religion, c'est la religion de l'amour. On ne peut pas pratiquer l'amour dans son cercle familial, dans son clan, comme en Afrique. Le clan, c'est quasiment, ça prend la place de Dieu. Dans sa religion, et puis faire le mal envers tout le reste de l'humanité. Ce n'est pas possible. L'amour ne se morcelle pas. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Et c'est ce en quoi Jésus fait le procès de la loi de l'Ancienne Alliance, qui n'était là que pour éduquer le peuple à une perspective plus grande. Mais il fallait cette éducation. Dieu l'a voulu dans sa providence et elle a duré longtemps. Donc il ne faut pas jeter la pierre à la loi ancienne. Elle a eu sa fonction et véritablement, elle a œuvré dans les consciences pour préparer des hommes capables d'accéder à la foi. Mais à la plénitude des temps, Jésus a dit que c'était seulement la loi nouvelle, celle de l'amour et de la vérité, qui devait désormais prendre toute la place. Les vendeurs chassés du temple, ben là aussi c'est une sorte de purification de la loi, de relecture de la loi du Sinaï en quelque sorte. Jésus a condensé cette loi donc sur le décalogue qui nous éclaire encore aujourd'hui. Eh bien c'est pareil pour le temple et ses lois. Une gestion humaine pour des buts humains, voilà ce qu'était devenu le temple. C'était plus du tout le haut lieu de l'adoration. Quelle était la vocation du temple? De tous les temples d'ailleurs, mais celui de Jérusalem en particulier. C'était le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est ça l'adoration. Et non pas un marchandage rituel qu'on fait avec Dieu. Alors, marchandage rituel, j'ai des besoins en tant qu'homme, en tant que croyant d'Israël, j'ai un Dieu, il m'écoute, dit l'Écriture, donc je vais lui offrir ce que la loi prescrit, et peu importe si je l'aime, peu importe si c'est uniquement pour mes affaires matérielles que je vais lui offrir un sacrifice, alors plus l'affaire est urgente et plus le sacrifice sera gros, bien sûr, mais j'attends des résultats proportionnés, c'est du marchandage. Si j'applique le rituel à la lettre, peu importe mes dispositions de cœur, ça marchera. Et ce marchandage rituel, c'est le marchandage magique. La formule magique qui produit son effet, quelles que soient les dispositions de celui ou de celle qui l'utilise. Or Dieu est un Dieu vivant, c'est pas une espèce d'énergie inerte, bienveillante, magnifique, superpuissante, mais c'est pas ça Dieu. Dieu c'est quelqu'un. Et lui, il n'accorde pas sa bénédiction à n'importe qui et à n'importe quelle condition. Il veut qu'il y ait l'adoration. Et l'adoration, ça veut dire se tenir en sa présence, conscient d'être présent en face de quelqu'un. Et de quelqu'un qui a une personnalité bien plus grande, bien plus riche, bien plus sensible que la nôtre. C'est donc la rencontre avec Dieu. Et ce que Dieu vise dans l'adoration, ce qu'il attendait du temple, c'était un renouvellement des consciences et des cœurs, une nouvelle prise de conscience de la présence de Dieu, une nouvelle prise de conscience de la vocation de l'homme et de sa place par rapport à lui, de sa souveraineté magnifique. C'était un lieu, ça devait être un lieu de contemplation du ciel. Pour donner une respiration à l'âme, c'était devenu un lieu de marchandage rituel, mais qui s'appuyait sur un marchandage économique très réel, pour éviter aux gens de transporter avec eux leur offrande depuis chez eux. Eh bien, on proposait le service de marchand mais qui payait évidemment au temple une rétribution, un impôt pour, sur chaque opération commerciale qui avait été effectuée pour vendre des animaux aux gens, aux pèlerins qui venaient. On n'est plus dans l'attitude de quelqu'un, voyez, on enlève même aux pénitents de l'époque eh bien, le fait de faire l'effort, de choisir parmi leurs biens personnels ou d'acheter mais dans leur village les animaux nécessaires, les transporter. Vous voyez, toute l'attitude du pèlerinage était gommée d'un seul coup. Vous arriviez là juste avec quelques grammes d'argent, d'étain ou d'or dans vos poches. Puis hop, vous débarquiez, vous commandiez vos trucs, des serviteurs allaient le livrer au temple directement avec votre nom sur l'offrande, et puis vous alliez au café boire une bière tranquille. L'adoration est vidée complètement de son sens. C'est ça qui scandalise Jésus. Jésus voit que le peuple, sous malheureusement l'influence du clergé de l'époque, a perdu le sens réel de la foi. Dans ses démarches et dans les buts qu'il poursuit, c'est toujours uniquement pour des choses humaines, c'est pas pour l'acte gratuit de se tenir en la présence de Dieu, de se réjouir et de réjouir notre Dieu, et bien d'être là avec lui, ce que nous sommes aujourd'hui ici dans ce petit sanctuaire. La passion aussi, c'est ce qu'évoque Jésus bien évidemment dans ce texte. La passion, c'est le pivot vraiment de la réforme religieuse du Christ. En dehors de son propre sacrifice, il signifie que adorer, ça veut dire mourir à soi-même d'une certaine façon. C'est mourir à cette perspective, c'est mourir à sa logique d'homme. C'est mourir, mais pour renaître à une autre perspective, à une autre vie, bien plus belle, bien plus complète et totalisante que celle que nous connaissons. C'est le jour du Seigneur. Après une semaine immergée, là surtout quand on est en ville, immergée dans la société des hommes et sa logique, bombardée par les préoccupations du moment, Covid ou autre, hein, on vient respirer un bon coup, un autre air, hein, d'autres perspectives que Dieu nous montre. Et il nous montre pour ça l'éternité, l'infini, il nous montre la beauté, il nous montre la bonté de son cœur sacré. Alors, captons vraiment l'essence même de la loi de ce décalogue qui est clair, que l'adoration du temple restauré, eh bien, éclaire, nous montre. Oui, cette essence de la loi, c'est l'amour, c'est la vérité.